Bonjour à tous, ici Pauline Ignot. Je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois aujourd'hui pour un invité qui décoiffe, vous allez voir. Son nom, Georges Mohamed Chérif. C'est le fondateur et président de l'agence de publicité iconique Buzzman. Vous avez certainement entendu parler des campagnes Tipex, de la campagne Burger King, bref, de toutes ces campagnes, mais qui ont fait sincèrement le tour du monde tellement elles ont buzzé. Donc décidément, l'agence porte bien son nom. J'avais déjà interviewé Georges sur le podcast, pas sur YouTube, donc si vous souhaitez écouter cette interview, c'est passionnant, c'est aussi hilarant, vous allez voir, Georges est à mourir de rire, eh bien n'hésitez pas à le faire, je vous mets le lien dans le descriptif juste ici, vous allez voir, vous allez passer un super moment. Mais pour revenir au sujet du jour, donc j'ai choisi de réinviter Georges, l'un de mes rares invités à venir pour une deuxième fois, parce que je voulais parler de plein d'aspects business qu'on n'avait pas évoqués la première fois, et notamment la vente dans son entreprise Buzzman, dont il est toujours le CEO et dirigeant, mais qu'il a vendu en 2019 à Havas. Et je voulais en savoir plus sur son processus de vente, comment ça s'était passé. Et je trouve que la réponse de Georges déjà est passionnante parce qu'elle est hyper complète et surtout très rafraîchissante. Je vous invite vraiment à écouter ce passage. Et puis ensuite, un peu plus loin, on a parlé de créativité. Là aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. De lifestyle, de comment travailler moins pour vivre mieux tout en étant dans la réussite et l'ambition. Bref, un épisode décoiffant, un épisode étonnant que je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout. S'il vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit like, vous savez que ça me fait très plaisir et pourquoi pas le partager autour de vous, ça m'aide énormément. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Georges Mohamed Chérif. Salut Georges.
Salut Pauline, ça va ?
Bah ouais, ça va, et tu sais que tu fais partie de mes rares invités à avoir l'honneur immense d'être invité une deuxième fois et je te remercie d'avoir accepté l'invitation de passer.
Je suis flatté, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais adoré la première expérience.
Et tu m'as dit, ce qui m'a fait bien plaisir, que tu avais eu pas mal de retours positifs.
Ouais.
Et je t'avoue que je suis très contente de l'entendre et on va en profiter, j'avais pas prévu de dire ça, mais de dire à l'audience, n'hésitez pas à envoyer des messages quand vous êtes touché par un épisode, parce que la preuve avec Georges, bah en fait, déjà ça les fait revenir, ce qui est quand même pas mal pour moi.
Ouais.
Et puis en plus, bah ça t'a fait plaisir et...
Ça m'a fait plaisir, ouais, parce que en fait, je me suis rendu compte que, bah, ça fait quand même quasiment 5 ans qu'on l'a fait.
Ouais.
Et il y a encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent et qui me disent que ça leur a fait plaisir que d'entendre qu'en étant un peu un branleur ou un feignant, on pouvait peut-être réussir un peu dans la vie. Et alors, bon, je suis un feignant.
Je suis pas sûr que tu sois vraiment que tu bosses pas trop, mais bon.
Je suis vraiment un feignant dans le sens où j'organise ma vie pour travailler le moins possible.
Le bon entrepreneur est un peu flemmard, je pense.
C'est pas le truc que tu quand tu vois certains entrepreneurs, enfin quand tu vois le monde de l'entrepreneuriat, t'as plutôt l'impression que t'as des gens qui sont au bord du burn-out plutôt que des gens qui sont qui ont un lifestyle un peu sympa. Enfin c'est un peu un cliché ce que je dis, mais on va dire que moi je suis vraiment dans, comme je t'avais dit la dernière fois, je travaille. Enfin pour moi, créer un agenda pour avoir des temps de libre, c'est un travail.
Mais aussi parce que comme t'es créatif, je pense que t'as besoin, non, de ces temps-là.
Non, c'est parce que j'aime bien.
D'accord.
Non, mais moi je suis vraiment.
Mais j'adore.
C'est pas du tout un. Non, c'est pas du
c'est
tout.
C'est pas intentionnel.
C'est pas de la gestion.
D'accord,
de...
c'est
non,
pas.
Non,
d'accord,
non, non, c'est parce que j'aime bien avoir mon temps, du temps de libre pour moi, pour ma famille, mes amis, et puis pour rien branler aussi. Rien branler, c'est cool, je trouve.
Non, mais j'adore.
J'aime bien rien faire, en fait.
Écoute, fine. Et surtout, ce que je trouve très cool, c'est que tu le dises et effectivement que ça aille contre des idées reçues qu'on est obligé de travailler en permanence pour réussir, parce que la preuve, tu nous as bien prouvé le contraire.
Enfin, ouais,
même si
ouais,
je pense que tu bosses quand même pas mal.
Non,
tout.
Franchement, je bosse pas mal et en vrai, j'ai même pas mal d'activités annexes qui me prennent du temps. Donc j'ai besoin, j'ai besoin d'avoir de l'activité, j'ai besoin de réfléchir à des trucs, j'ai besoin de réfléchir à des nouveaux projets, mais me tuer à la tâche, c'est pas trop mon truc.
Bah c'est drôle parce que je voulais te parler justement de ta vision du lifestyle, et donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça se manifeste, qu'est-ce que tu organises justement pour te garder des plages de temps?
En fait, c'est plein de petits micro détails qui font que je pense que je suis pas mauvais à ça. Tu vois, par exemple, là je vais prendre un train tout à l'heure, j'ai je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais j'ai téléchargé un film du temps de voyage.
Non,
c'est à dire que là tu vois, j'ai téléchargé Oppenheimer. Ouais. Et parce qu'il dure 3h10 et le, comme je vais à Marseille, ça va faire 3h20. Donc je vais arriver, je vais aller au bar, me prendre un Coca Zéro, je vais revenir à ma place, je vais envoyer deux SMS et j'ouvre mon ordi, je mate le film et quand je ferme mon ordi, normalement je suis arrivé à Marseille. C'est un truc, c'est un truc d'organisation.
C'est l'organisation de la
Mais
glande.
Mais c'est du taf, hein. C'est du taf. C'est, pour avoir.
Titre de podcast, organiser la glande.
Mais je crois que le, c'est un micro détail, mais imagine ça surtout.
Ouais, ouais, d'accord.
Imagine ça surtout et je bosse pas trop le matin, même si depuis que j'ai mon petit Marius, je me lève plus tôt qu'avant. Mais le matin, ouais, je suis plutôt un mec de l'après-midi et de la fin de journée.
Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que ça t'empêche pas, bon, quand même pour le dire, d'avoir Buzzman et d'en être le CEO, mm-hmm. d'avoir un resto. Donc, j'ai compris que t'es pas forcément opérationnel, mais enfin.
J'en ai deux.
Donc, t'en as deux.
Ouais.
Là, t'as lancé le spin-off il y a quelques années, Productman.
Oui.
Et certainement plein d'autres trucs que je ne sais pas. T'as un petit garçon depuis quelques temps, là, qui est ouais. tout petit, donc faut quand même s'en occuper.
Un petit peu, ouais.
Donc, en fait, c'est un peu contre-intuitif, tu vois, pour quelqu'un comme moi, de se dire, tu te mates des films dans le train, et ce qui est très bien.
Ouais.
Et tant mieux. Mais en même temps, t'as quand même pas mal de trucs sur le feu.
Je crois que j'en ai besoin. Je vais faire un hôtel à Marseille, par exemple, là, donc on va attaquer bientôt. En fait, ma vie est partagée, si tu veux, entre des projets de pub et des projets, on va dire, dans l'hospitality, c'est-à-dire restauration et surtout hôtel. En fait, là, je vais faire vraiment mon rêve parce que je rêvais de faire un hôtel et en plus à Marseille. Parce qu'il manque d'hôtels à Marseille. Oui, c'est vrai que c'est un peu schizophrène, quoi. C'est à la fois rien foutre et à la fois avoir être en hyperactivité. Mais on va dire peut-être que l'hyperactivité, je la module dans des endroits très précis et dans des moments très précis. Ma meuf, Elodie, des fois, elle me dit, mais tu bosses quand, en fait? En fait, ça se voit pas vraiment. Tu vois, elle me dit, mais comment t'arrives à gérer cette boîte de, parce que je sais pas, on est 180 personnes, il y a 25 clients et on sort quand même beaucoup, beaucoup de campagnes. Et je fais en sorte, justement, pour qu'on ait une vie cool, que ça soit pas indolore, mais quasiment indolore pour elle.
T'as réussi à déléguer suffisamment?
Ouais.
Pour ça?
Ouais. J'ai réussi à déléguer, je suis toujours à la manette et je suis toujours, sur les gros projets et des petits aussi, parce qu'en fait, je fais un peu ce que je veux, on va dire, et je pense que les gens à l'agence, ils ont besoin que je sois là et en même temps que je sois pas là, que je sois là pour ce que j'appelle le dernier kilomètre. Tu sais, c'est vraiment le dernier juste
alors,
avant.
Vas-y, raconte-moi parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je vois, mais je suis pas sûr.
Le dernier
que...
kilomètre, c'est la petite phrase de fin, le petit truc de son, le petit truc de montage.
Qui va faire que c'est magique.
Alors, sinon je m'attribuerai un truc.
Non, mais que. Tu walk the extra mile, quoi.
Ouais, exactement. Et le fait que je sois pas dedans, j'ai évidemment tout le recul.
Bah,
qui
sûr.
Fait que quand j'arrive, je dis, il faut faire ça. Et les mecs me regardent en me disant, putain, bah oui, évidemment. Mais pas parce que je suis meilleur qu'eux. C'est juste que moi, j'arrive en fin de course, que j'ai pas tout le background, tout le bordel avant. Et on va dire que je suis en extra lucidité, mais notamment parce que je fais pas la tête trop prise. Donc, mais bon, je pense que c'est valable à peu près dans n'importe quelle bise, en fait.
Complètement. Mais
le rôle du boss, alors en créativité, comme j'étais créatif, ça m'aide d'entrevoir des trucs où des fois les mecs se font des nœuds à la tête, alors qu'en fait, parfois il suffit de simplifier les choses. Mais je pense que ça vient de là. Ça vient du fait que je suis pas, tu sais, quand ton téléphone il te dit stockage, tu sais, quand il y a trop de trucs dans ton ordi ou ton téléphone, ben j'ai pas ça, moi.
Ben, c'est bien.
Ça m'arrive, hein, dans des certains moments, mais en fait dès que mon corps effleure cette zone de, ou quand t'es en scout et que t'es en réserve et que tu dis putain il faut que je trouve de l'essence parce que sinon je vais tomber en rade, dès que mon corps ou mon esprit se rapproche de ce moment, je fais un blocage et j'arrête. Et je dis, bah, démerdez-vous.
Pratique.
Évidemment, je dis démerdez-vous, et si c'est pas bien, je dis que c'est de la merde.
Bah, bien sûr.
Ce qui est logique.
C'est sympa quand même, ta vie.
Ce qui est logique.
Georges, si ça te va, j'aimerais bien qu'on parle de la vente, parce que tu l'as dit, t'es encore DG opérationnel,
ouais.
T'es encore les mains dedans et t'es aux manettes, mais malgré tout, en fait, t'as fait le choix à un moment donné de vendre Buzzman.
Ouais.
À Abbas. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi?
Alors, tu sais, des fois, Je pense qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est d'avoir des... De la même façon que les gens ont des deadlines pour rendre leur travail, tu vois, tout le monde vit avec des deadlines. Moi, je déteste les deadlines. C'est-à-dire que dès qu'on me donne une deadline, a priori, j'ai envie de la péter.
Je suis pas hyper étonné.
Ouais. Et par contre, je me donne des deadlines pour moi-même. C'est-à-dire, tu vois, je m'étais dit, ça serait cool qu'à 50 piges, je vende ma boîte.
D'accord. C'était un objectif pour toi.
Ouais, je trouvais ça. Mais tu sais, j'aime bien les chiffres ronds.
Ok.
Je m'étais dit 50 piges, c'est cool, quoi. Et en fait, pour mes 50 ans, j'ai fait un truc qui s'appelait 50 goals for 50 years. Donc, c'était 50 trucs que j'avais jamais fait dans ma vie.
Génial.
Et j'en ai fait 28.
Ah,
honte à moi. Mais c'est cool. J'ai fait plein de trucs. Tu vois, par exemple, pendant un an, j'ai pas mangé de viande.
Mais en fait, sincèrement, je vais être obligée de revenir sur ce sujet parce que je trouve l'idée géniale et que tu me dises un peu plus qu'est-ce que t'as fait de
dingue.
Ouais,
je vais te dire. Et notamment dans les 50, il y avait vendre ma boîte.
Oui, donc c'est pas des trucs légers non plus. Hein.
Non. Tu vois, pas manger. Enfin, moi, j'adore la viande. J'adore. Les gens m'appellent Poultoc. Donc, tu vois, pendant un an, j'ai pas mangé de viande. Par contre, je me suis gavé le 2 janvier. J'étais au Brésil. J'ai mangé à peu près tout ce qui existe comme viande.
D'accord.
Et je m'en suis dégoûté. Et du coup, ça m'a permis de rester pendant un an sans viande. Et honnêtement, ça a un peu changé ma life aussi alimentaire. Parce que depuis, manger de la viande, ça devient une fête en fait. Tu vois, je mange plus autant de viande qu'avant. Et je me sens mieux, j'ai minci, je me sens plus en forme.
Et donc, il y avait dans la checklist...
Dans la checklist, il y avait vendre son agence.
D'accord. Et donc, en fait, comment tu t'y prends, quoi? Comment ça se passe?
Alors, si je vais rentrer un peu dans le détail de cette histoire, parce que je pense que c'est... D'abord, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de l'agence, parce qu'il y a plein de gens à l'agence qui sont pas au courant. Il y a la garde rapprochée qui est un peu au courant. Mais en fait, il y a plein de gens à l'agence qui sont pas au courant. Soit parce qu'ils étaient là et qu'ils étaient pas dans
oui,
le secret.
Sûr.
Soit c'est des gens qui sont arrivés entre temps. Donc je pense que ça me tient à cœur d'en parler. En fait, et ça me tient pas d'en parler en mode de genre je dévoile des secrets de ouf. C'est des sujets en général où il y a un peu une sorte de silence dessus. Mais, pour partir du début 2011, 2010, on fait Tipex.
Incroyable.
2011, Maurice Lévy m'appelle et il veut racheter l'agence. Et
de Publicis.
De Publicis, exactement. Et il me propose une somme qui était déjà démesurée par rapport à la valeur de l'agence à l'époque.
Alors, c'est assez rare quand même qu'un entrepreneur dise que la somme proposée est démesurée.
Elle était franchement, oui, ça valait pas ce qui, en fait, il me donnait plus que ce que ça valait réellement, mais vraiment beaucoup plus. Sauf que, parce que je me la suis joué un peu rockstar, je voulais un chiffre rond. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'aimais les chiffres ronds. Et je lui dis, bah, franchement, la somme, elle est cool, mais c'est pas un chiffre rond. Donc, j'ai évidemment arrondi au chiffre rond.
D'accord,
supérieur.
Tu voulais que ça soit encore plus démesuré, carrément
non,
extravagant.
Je voulais le chiffre rond. Ça okay. Me faisait chier. Le chiffre là en question, il était un peu merdique. En plus, ça pas, okay. pas un chiffre que j'aimais bien. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et pour la petite histoire, je venais quand même de dire non. Et il m'a dit, mais monsieur Mohamed Chérif, vous vous rendez pas compte. Même mes financiers me disent que ce qu'on vous propose, c'est complètement ahurissant et je vais le faire quand même. Mais c'est déjà ahurissant. Je lui dis, ben, je suis d'accord, mais le chiffre n'est pas rond, donc ça marche pas. Et il a été super avec moi. Il m'a dit, quel est votre prix? Je lui dis, c'est le prix de l'indépendance. Donc je lui dis c'est ce chiffre donc qui était un chiffre rond et je lui dis c'est le prix de l'indépendance et il m'a dit non je vais pas aller jusque là et on s'est quitté là-dessus et en partant je me suis dit putain je viens quand même de dire non un peu au pape de la pub quoi tu vois c'est quand
clair.
Même c'est quand même le mec qui pèse vraiment lourd quoi et je pense un peu pour flatter son ego je lui ai demandé si on pouvait faire un selfie.
Ah ouais.
Ouais. Et en fait, ça a changé son visage. C'est-à-dire que d'un coup, je lui redisais que c'était quand même le taulier. Mmh. C'était quand même Tony Soprano, quoi. C'est quand même le. Donc, on a fait un selfie et j'ai vu à son visage que, tu vois, il s'est dit, OK, le mec, entre guillemets, me considère et montre que pour lui, je suis un peu.
C'est intéressant.
Je suis un peu une star. Mais je l'ai pas fait volontairement, mais je sais pas, je me suis dit, ça pouvait manquer un peu de déférence, tu vois, de dire non à ce mec-là, pas du tout.
Que tu respectes énormément.
Que je respecte. Et surtout, c'était même pas pour me dire, je veux pas me fâcher avec lui, on sait jamais plus tard et tout. C'est juste que je me suis dit, ça doit un peu, tu vois, ça doit pas lui arriver souvent quand on lui dise non. Et je trouvais que ça méritait, voilà. Et c'était un truc, même pour moi,
oui, c'est je l'ai fait souvenir.
Par souvenir, tu vois, de me dire un jour, je me rappelle très bien de la scène, il y avait c'était une salle en velours qui devait faire 6 cm. J'étais dans le canapé comme ça et je me disais, putain, là, je vais quand même voir Maurice Lévy qui va me proposer de racheter la boîte, bref. Et donc, ça, c'est 2011. Suite à ça, il y a plein d'agences qui m'ont aussi proposé tous les ans à peu près.
Donc t'avais beaucoup de demandes en
tout. Ouais, vraiment
tout. Ce qui se fait beaucoup dans le milieu de la pub par ailleurs, mais bon.
Oui, et puis on va pas se mentir, on était un peu l'agence glamour. Tu vois, j'étais pas surpris que les gens veuillent me racheter. C'était, on va pas se mentir, c'était un peu le.
Ah bah vous étiez honnêtement les stars, clairement.
Et du coup, je crois qu'en 2014 ou 2015. Il y a Dominique Delport, donc qui était à l'époque CEO de Havas, que j'avais rencontré à Cannes et que j'avais vraiment apprécié, et qui m'a dit ça serait bien qu'on rachète l'agence et tout. Et je lui ai dit, bah franchement, c'est pour bosser avec toi, avec plaisir. Et ça s'est pas fait parce que, je peux te dire quand c'était en 2015, parce que je venais d'acheter les murs de l'agence, rue Lafayette, on venait de s'installer. Et pour moi, c'était le rêve de ma vie, c'était un endroit que t'es venu, tu vois. Et je discutais avec Yannick Bolloré et donc il me propose un deal et tout, et il me dit par contre il faudrait que tu viennes à Puteaux parce que je vais faire le village Havas et tout. Et là je dis et financièrement et tout c'était cool, tout était nickel, mais j'ai dit par contre les bureaux c'est hors de question quoi. Et il me dit, mais c'est pas grave, tu fais venir tes équipes et tout. Je dis, mais vous avez pas compris. Déjà, un mois, j'ai pas envie de le faire. Je me suis fait chier à être à Paris dans le 10e pour être pas loin de chez moi. Toujours pareil, gestion du bordel. Et surtout, moi, j'ai vendu ça à mes équipes. Mes équipes, ils veulent être dans le centre de Paris, pouvoir aller bouffer dans le 10e, aller au Cinoche et pas aller se taper 45 minutes de trajet tous les jours pour y aller, et 45 minutes pour rentrer. Donc, non, c'est une mauvaise idée, même pour vous, en fait. Je pense que c'est pas une bonne idée. Cut.
Donc, vous quittez quand même pour une histoire de localisation des bureaux.
Ouais, de localisation.
C'est quand même dingue, comme histoire.
Et surtout, je m'assois quand même sur un petit paquet d'oseille.
Bah, j'imagine.
Mais non, pour mon confort, ma joie de vivre et la joie de vivre, pour le coup, je savais pas si les gens allaient rester, tu vois.
Ouais.
C'est peut-être une vision dans ma tête et que les gens seraient venus à Puteaux, mais c'était pas nous d'aller rejoindre une agence. Et pour moi c'était genre on se travestissait, tu vois. Et cut, donc là il y a 2015, on gagne plein de budget, Burger King, Ikea, Boursorama, PMU. Donc là il y a d'autres agences qui vont essayer de nous racheter. Il y en a une avec qui ça a failli se faire. Je peux pas en parler parce que c'est tout ça, c'est NDA. Publicis, je peux en parler parce que je crois que ça le fera plaisir à Maurice Lévy, qui chaque année on s'envoie nos vœux et tout depuis, et qui m'a félicité d'ailleurs pour la vente. Il m'a écrit pour me féliciter.
Classe.
Ouais, assez classe.
Franchement.
Et 2018, juin 2018, on fait un séminaire avec mes 3 ou 4 associés. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, franchement, on est vraiment au sommet. Tu vois, on avait gagné tous les prix, on gagnait beaucoup d'argent. Et moi, j'ai dit, je pense que là, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire, parce que là, logiquement, on est en haut, et à un moment, quand on est là-haut, il y a un moment, ça va descendre. Donc, si on veut pas redescendre trop brusquement, peut-être c'est le moment de faire un truc. En fait, il fallait faire un truc. Donc, on a hésité entre un LBO, et se dire bah s'il y a une bonne agence qui vient nous voir, on réfléchit quoi. Et on a commencé à se faire à prendre toutes les infos pour faire un LBO auquel je ne comprenais rien mais j'ai fini par comprendre en juin 2018 il y a un certain Mathieu de LFCE qui avait une boîte de pub à une agence digitale qui était à l'époque de Buzzman au tout début, qui était vraiment l'agence digitale qui cartonnait, qui s'appelait Duke, qu'il a revendu, il me semble, à Razorfish ou à un truc comme ça, qui avait intégré Havas. Et c'était un mec que j'aimais beaucoup. C'était un mec que je respectais beaucoup et tout. Et on déjeune ensemble et il me dit, voilà, je pense que ça serait bien que tu rejoignes Havas parce que là, je vais arriver, voilà mon plan et tout. Je dis, putain, c'est génial et tout. Je dis, bah, Moi, franchement, si on change pas de bureau,
si on change pas de bureau, si on change pas de locaux,
ça peut m'aller, quoi. Et je lui donne un chiffre. Je dis, par contre, c'est ce chiffre-là. Si c'est en dessous de ce chiffre, c'est même pas la peine qu'on se reparle et qu'on se revoie. Et il faudra jamais qu'on reparle de ce chiffre. Et il me dit, OK. Et il m'a rappelé, il m'a dit, OK, on reparle pas du chiffre. Et pour les locaux, c'est bon. Et voilà. Et donc, après, ça a été, vendre une boîte, c'est un enfer. Avec les avocats et les paplards, les due diligence, où tu dois montrer tous tes bilans, tous tes trucs et tout. Alors moi, je dis ça, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais je sais que et mon avocat et mon directeur financier que je salue et que je remercie au passage, qui sont les frères Amsalem, ça pourrait être le titre d'un film, que j'ai eu la chance et la bonne idée d'associer à l'agence quand j'ai commencé. Et que
ton avocat aussi ?
Ouais. Incroyable. Je l'ai associé.
Bah oui, super idée.
Bah oui, parce que j'avais pas de thune pour le payer. Et donc, je me suis dit.
Franchement, avoir un avocat comme associé, un bon avocat, c'est une super idée.
Bah, en fait, si tu veux, la première fois que je le vois, le mec, il me reçoit à Avenue Montaigne, il avait un bureau avec vue sur la Tour Eiffel. Et là, je me suis dit, putain, je vais jamais pouvoir me payer les trucs. Et je lui dis, bah, moi, j'ai zéro. Ma boîte, elle coûte zéro. Par contre, ce que je te propose, c'est de te filer, je vais peut-être te dire des conneries, mais 3% de la boîte. Et peut-être qu'un jour, ça coûtera de l'argent. Et on va pas se mentir, il aurait pu ne pas me croire.
Ouais. Et puis, il aurait pu, au-delà de pas te croire, ne pas marcher, tu
vois. Ouais, oui, non, mais dans ce sens-là, ouais. Il aurait pu se dire, bah non, en fait, excuse-moi, mais on se connaissait pas, hein, c'est la première fois que je le voyais.
Ouais, t'étais quand même.
Et il était avec son frère, Olivier, qui était mon directeur financier. Enfin, je les ai rencontrés à ce moment-là, via un mec qui s'appelle Thomas Cook, que je salue aussi au passage, qui a été mon client, puis mon ami, puis je suis devenu le témoin de son mariage, et qui est le parrain de mon fils. Donc l'histoire, elle est assez géniale.
Belle histoire.
Et donc, Gilles me reçoit dans ce truc, et je lui dis, bah, moi, par contre, j'ai pas les thunes, quoi. En fait, tes bureaux, là, j'ai l'impression que t'es un putain d'avocat. Et par contre, dans ma tête, je me suis dit, si le jour où je vends ma boîte, et le directeur financier et l'avocat, ils vont se faire chier pour moi pour la vendre bien. Parce que ils seront tous les, moi, j'avais pas ce discours, j'avais même pas comment monter une boîte, tu vois, donc, et là, j'ai été smart. J'avoue, avec le recul.
Tu te dis quand même que là, c'était le bon coup.
Ouais, j'étais malin. J'étais malin, donc c'est un conseil que je donne. Avoir, donné des billes à son directeur financier. Parce qu'ils se font chier.
Bah,
ils trouvent des techniques. Dans un égo, ils sont super.
Alors, il faut qu'ils soient bons aussi. Parce que si tu donnes des billes à quelqu'un de mauvais, c'est pas terrible.
Non, ils avaient tous les deux un bon track record. Ils avaient, déjà, tu sais, quand t'as des bureaux à Avenue Montaigne, avec vue sur la Tour Eiffel,
c'est un bon indicateur.
Ouais, c'est con, mais c'est un bon indicateur, quoi. Et donc, ouais, c'est vendre sa boîte, c'est un parcours du combattant.
Ça a pris combien de temps, tu dirais, au final?
Un an.
Ah ouais, quand même.
Ouais, un an. Ouais.
Alors que, en plus, t'avais l'acheteur, quoi. Enfin, c'était.
J'avais
pas...
l'acheteur. Après, ça a duré un peu de temps parce qu'il y a eu l'été qui est passé. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu une période où ça allait super vite. Après, on a commencé à rentrer dans des détails qui, moi, m'ont un peu saoulé, genre, où on regardait des détails de blé, de trucs et tout, qui, moi, je suis une phobie administrative, donc, c'est pas trop mon truc. Et donc là, ça a un peu traîné, c'était vraiment des trucs d'avocat, ils écouteraient ça, ils me diraient, franchement, je pense que tu t'es pas rendu compte, mais ça a été hyper smooth. Mmh. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu lourd. Et puis, on va pas se mentir. On va dire en 3 mois avant de signer, je me suis fait vraiment une falaise. Une falaise, genre, je me suis levé un matin et je me suis dit, putain, je vais vendre ma boîte. J'étais vraiment au bord de la falaise, quoi. Je me suis dit, je vais vendre ma boîte, mais je suis un malade de faire ça. C'est le truc qui m'a apporté tellement de choses, tellement de bonheur, tellement d'aventures. Enfin, c'est une aventure humaine de dingue, en fait. Enfin, au-delà du blé et tout, c'est surtout... un jouet, quoi. C'est un jouet de inestimable. Et je me suis dit, putain, tu vas casser ton jouet, quoi. Parce que ces mecs qui t'ont dit parce que le deal, c'était ça. C'était un deal très dur pour eux à accepter. Et en même temps, ils ont hyper vite compris mon intention, parce que j'étais très ferme dès le début. J'ai dit, en fait, vous allez racheter la boîte, mais l'idée, c'est qu'on reste indépendant. Donc, on veut
Et toi, tu voulais rester à bord. Bah, la preuve.
Bien, bien sûr. Je veux. Alors, c'était même pas un sujet. Eux, ils voulaient que je reste à bord. Eux, leur
c'est pour
flip...
ça que vous étiez alignés. Donc ça, ouais, c'est ouais. Bien.
Eux, leur flip, c'était que je me barre.
Bah, bien sûr.
Oui. Parce
ah bah
que
toute ça, la valeur.
Oui, oui. Ça, j'ai... Enfin, oui, non,
pas
mais
toute la valeur, bien sûr, non, mais justement. Une partie quand même importante.
Ouais, mais justement, non. Moi, je les ai vachement rassurés là-dessus. Elle me dit... Parce qu'au début, ils me disaient, oui, il paraît que t'es souvent à Marseille. Est-ce que tu vas vraiment être au truc et tout. Je dis, bah. C'est vrai que je suis vachement à Marseille, mais du coup, vous venez pour me racheter, donc c'est la preuve que ça marche. Mmh. Donc même si je suis souvent à Marseille et que je donne l'impression...
Oui, c'était déjà le cas avant, quoi.
C'était déjà le cas avant, et je leur dis, mais au contraire, c'est un success proof de le fait que je sois pas souvent là, bah ça veut dire que la boîte, elle marche en moi. Et en réalité, ce truc d'indépendance, de garder les mêmes managers, qui est pas des gens d'Avas, mmh. qui soient... chez nous et qui sont en gros à une sorte de virus ou un œil de Moscou, ils ont tout accepté. Mais quand même, tu dis une fois que t'as vendu ta boîte et qu'ils ont 51% de la boîte, c'est quand même les boss. Donc si demain ils disent ah bah finalement tu sais quoi en fait les locaux ça va être à Puteaux. Bon après c'est un risque pour eux parce que si ils vont contre le contrat sur lequel tu t'es mis d'accord, il y a rien de contractuel. Hein. Tout ça c'est même pas écrit.
C'est gentleman agreement.
C'est gentleman agreement donc. Les mecs, ils peuvent faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en l'occurrence, franchement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais par contre, la falaise, elle a été très violente. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je me suis dit, mais t'es un malade. Alors, c'est cool, tu vas prendre du blé, tu vas, on va pas se mentir, ça flatte ton ego aussi devant ta boîte. Tu as une sorte de réalisation. Mmh. C'est pour ça aussi que je voulais le faire pour mes 50 ans. Il y avait un peu ce truc de ok à 50 piges j'aurais fait ça c'est dans ma biographie entre guillemets ça matchait bien et en fait ouais je me suis fait un flip et en fait j'en ai parlé à Thomas Granger mon associé et je lui dis tu sais il me dit mais j'ai la même il me dit je flippe et tout et puis après j'ai bien réfléchi je me suis qu'est-ce qu'on risque au pire s'ils essaient de nous de changer les termes du contrat, ben on se barra et on créera une autre agence et puis ouais, voilà, ouais. Quoi, tu vois. En fait, à la fin, on s'est dit ça. Et comme on sentait fort, et en fait, franchement, ils ont chacun, on va dire, parce que je pense qu'ils diraient la même chose
bien
de
sûr.
Nous. On a vraiment fait ce qu'on a dit et on a dit ce qu'on a, tu vois.
Ça, vous avez respecté les.
Ouais, on
les
a vraiment respecté. Et je te dis pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec le directeur financier monde de Vivendi, donc de Havas, François Larose, que je salue aussi et que je remercie au passage. Et on a fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a fait les meilleures années de l'agence.
Après.
Et bah, cette année, on a fait la meilleure année de Buzzman.
C'est dingue.
Ouais.
Et je voulais te demander en quoi ta vie a changé ou la vie de l'entreprise quand même a changé suite à ce rachat, même si c'est passé très bien et que honnêtement il y a beaucoup d'histoires d'horreur, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse.
C'est pas ça qui a changé l'agence, c'est le Covid. En vrai, le rachat a changé zéro, mais zéro. Non, le Covid ça a changé. La chance qu'on avait, c'est que et c'était marrant parce que nous, le Covid, pendant un mois et demi, bah, comme tout le monde, on s'est pris un uppercute. Mais en fait, en 2020, on venait de vendre la boîte quand même. Donc tout le monde me disait, mais oui. Toi, t'as une chatte. Parce que tout le monde pensait qu'on allait tous, tu vois.
Ouais. Oui, il y a eu un petit moment de
On va pas se mentir, il y a eu un petit moment de fébrilité, on va pas se mentir. Mais en fait, comme nous, on avait déjà l'habitude de bosser à distance, finalement, le WhatsApp, Zoom, tout ça, tu vois, allez, on a pris un coup, mais en un mois et demi, on était reparti comme en 40. Et en fait, pareil, on a fait la meilleure année. Tout le monde serrait les fesses pour essayer de pas trop perdre d'argent. Nous, on a fait la meilleure année en 2020. On a fait mieux que 2019, ce qui était insensé. C'était assez insolent. Mmh. J'osais pas trop dire à l'époque parce que tout le monde se plaignait. Quand les mecs me demandaient si ça allait, je dis « Ouais, ça va, on peut aller ». Tu vois, je me plaignais pas parce que je veux pas déconner, mais j'en faisais pas trop.
Et tu disais que le Covid avait changé la boîte, tu veux dire au niveau télétravail, etc.
Ouais.
C'est ça, donc sur les habitudes de
ouais,
travail.
Sur l'organisation, c'est. Tu sais, quand nous on a toujours eu beaucoup de nouveaux clients, des nouvelles têtes, on engage beaucoup de gens et on a été nuls à un truc, c'est les nouveaux arrivants, on a été nuls. Il y a des mecs qui sont arrivés pendant un an, ils étaient chez eux, et ils savaient pas dans quelle boîte ils étaient, ils avaient pas la culture de l'entreprise. Et puis il y avait plus les fêtes, il y avait plus les moments où on se retrouvait pour faire les cons, il y avait plus les moments où tu perdais du temps ensemble. Et ça a été très très stressant pour moi. Parce que je disais à mes associés, je leur disais OK, c'est cool, on gagne de l'argent, ça marche, on fait des bonnes campagnes et tout. Mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de changer.
De culture,
ouais. Et c'est cool parce qu'on s'en est rendu compte assez tôt pour pouvoir rechanger. Mais on va pas se mentir, c'est plus la même chose qu'il y a avant le Covid. Le Covid a vraiment... Et à côté de ça, ça a fait des très bonnes choses. C'est-à-dire que moi, j'adore le fait que les gens ils viennent à l'agence quand ils veulent. Là, on a changé juste depuis septembre. Mais avant, les gens venaient quand ils voulaient. C'était
open bar.
Et là, depuis septembre, on s'est dit quand même, c'est pas mal d'avoir 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi, parce qu'on s'est rendu compte que le lundi et vendredi, bah, les gens... Et c'est ça qui est cool. J'adore le fait d'assumer ça. En fait, par rapport à moi, ma mentale... Bah,
j'avoue que...
Moi, si tu veux, les gens...
Dans un souci d'exemplarité.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien. Parce que tu vois, quand les gens me disaient, ouais, mais le lundi et le vendredi, les gens, ils sont pas trop là. Je dis, mais c'est normal. Enfin, tu vois, moi, je ferais ça. Si les mecs bossent bien et s'ils balancent du bon taf, je m'en branle, moi, qu'ils soient pas là lundi, vendredi. Et je trouve ça même malin qu'ils le fassent. Moi, j'étais assez fier de mes équipes qu'en gros, le lundi, c'était la suite du week-end et que le vendredi, ils partaient en week-end plus tôt. Je trouvais ça assez brillant. Et c'est marrant parce que au début, quand il y a eu le truc, j'avais parlé avec Yannick et Bolloré et François Larose et je leur ai dit, nous, c'est fou le télétravail. Il m'a dit, ouais, fais gaffe quand même parce que la cohésion, là, là. Je dis, moi, tu sais, les gens ici à l'agence, ils taffent, quoi. Ils sont là pour... Et franchement, les gens, ils taffaient vraiment beaucoup.
Oui, bah...
Limite, ils travaillaient plus parce qu'ils se faisaient chier, en fait. Et je trouve... Moi, Enfin, c'était une période quand même... Tu vois, j'en reparle pas souvent, mais quand... Là, on aborde le sujet, c'est quand même on a quand même vécu un truc un peu chelou, quand même, hein. C'est un peu comme une série télévisée, tu sais.
Complètement.
Le pitch de « Le monde s'arrête », moi, j'étais tout seul avec l'histoire avec ma femme d'aujourd'hui avec qui j'ai eu un enfant. Je l'ai rencontrée pendant le Covid, quand même. On était un peu ensemble 3 mois avant. On n'avait jamais passé plus de 72 heures. Et boum, on se retrouve trois mois bloqués ensemble.
Ah bah, ça passe ou ça casse.
Ah bah, c'est... Ouais, c'était... On faisait chambre à part au début. Parce que, tu sais, pendant il y avait le truc où pendant 14 jours, on savait pas ce qu'on avait fait chacun et tout. Donc, pendant 14 jours, on a fait chambre à part. Et aujourd'hui, j'ai eu un enfant avec elle, quand même. C'est assez dingue.
C'est
ça. Et ça aurait pu très mal se passer parce qu'on se connaissait pas très bien. On se connaissait pas très bien. Ça, c'est une très belle histoire de ma life. Ouais, j'ai de la chance aussi là-dessus.
Maintenant, si ça te va, je veux bien aborder un autre sujet.
Et le dîner tout que je salue au passage. Et Marius, mon fils. Bah,
j'espère bien. J'aimerais bien aborder un autre sujet qui est les multiples activités.
Ouais.
On en a parlé au tout début un petit peu, et notamment donc tes restaurants. C'est un peu un sujet qui m'intrigue.
Ouais.
Pourquoi diable te lances-tu dans cette aventure ?
Alors, ne faites jamais de restaurant, ça ne sert à rien. Si vous voulez gagner de l'argent, en tout cas.
Mais c'est ça, ça gagne pas trop d'argent.
Non,
quand
ça
même,
gagne zéro.
On travaille comme un chien quand
tu
même.
Tu sais, c'est marrant. Le pitch d'un resto, c'est quand t'arrives à faire zéro à la fin de l'année, t'es content. les gens qui travaillent dans un resto, ils travaillent comme un chien.
Mais c'est fou.
Mais moi, là, je vois, mais je suis admiratif. Alors, après, j'ai mis un peu de moi dans ce resto, c'est-à-dire que le resto est ouvert du jeudi au dimanche. Donc lundi, mardi, mercredi et dimanche après-midi, les gens ne travaillent pas. Donc, tu vois, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de restos où c'est foutu comme ça. J'ai fait l'équipe pour que ça soit comme ça. J'ai fait les menus pour que ça soit comme ça.
Mais donc, tu as été vraiment très opérationnel. Parce que si tu fais l'équipe et les menus... Bon, l'équipe, oui, c'est sûr, si tu en es le propriétaire.
Pas les menus, les tarifs.
OK.
Non, ah non, non, après, non. Moi, j'adore bouffer, mais... Quoi, je suis pas trop mauvais pour faire à manger, mais je serais incapable de faire à manger dans...
Mais alors, du coup, d'où vient cette idée farfelue?
J'adore tout ce qui est hospitalité. J'adore recevoir les gens. J'adore... voir des gens contents, j'adore voir les gens picoler, je trouve
que c'est une aventure plaisir pour toi.
Total, ah oui, c'est un investissement à perte.
D'accord.
C'est totalement un investissement.
C'est un kiff.
Ouais, c'est totalement un kiff.
Et l'hôtel, ça va être un kiff aussi?
L'hôtel, c'est un kiff, mais l'hôtel, c'est, je pense que c'est plus rémunérateur.
Oui.
Après, c'est un risque financier beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on, d'un coup, t'es obligé d'investir des millions.
Et ça, tu comptes le faire à Marseille, tu disais ?
J'en ai un en route en Normandie.
Ok.
Dans lequel je suis en train de faire tout ce qui est permis et je me chope les monuments historiques parce que c'est un endroit qui est inscrit aux monuments historiques.
Sympa.
On va pas se mentir, je me tâte de savoir si je le garde ou pas parce que c'est quand même un gros mal de crâne et encore une fois, dès que c'est trop mal de crâne, je suis pas un lâche, mais je sais m'arrêter là où ça devient trop chiant et où tu dis, oh, le plaisir n'en vaut pas la chandelle. Mmh. Et il y en a un autre donc que je vais faire à Marseille, qui était en vrai au fond de moi-même le rêve que j'avais depuis des années, parce que évidemment je suis encore plus amoureux de Marseille. J'ai fait mon confinement à Marseille et là l'hôtel, c'est parce que je sais pas, j'adore aller là, tu vois, quand je vis entre Paris et Marseille, là ma maison est en travaux, donc je vis à l'hôtel, donc je me fais différents hôtels à Paris entre temps. J'adore, je sais pas, je trouve que c'est, tu sais, il y a des gens qui ont vécu dans des hôtels, je crois que c'est Paul Naref qui a passé sa life dans un hôtel et tout. Je le ferai pas.
Je crois Gabrielle Chanel aussi, elle habitait à l'hôtel.
Oui, hein, t'as raison. Et au Ritz.
Il me semble.
Ouais, c'est au Ritz. Et alors j'aime bien le côté romanesque du truc. Je le ferai jamais parce que moi, à un moment, j'ai quand même envie d'être chez moi. Mais passer 2 jours dans un hôtel, je trouve ça, peut-être ça te change la life, ça change ton quotidien. Et donc c'est un truc que j'aime. C'est un truc que j'aime et j'ai envie d'en faire un. Est-ce que je vais bien le faire? Alors, ma femme est architecte, ça aide. Donc, c'est aussi un projet personnel avec elle. AtelierElodieNectou.com. Mais lui donnez pas de boulot parce qu'elle en a trop. c'est un projet avec elle, c'est un projet pour Marseille parce que je trouve que Marseille est mal payée. J'ai envie de faire un truc pour cette ville, moi. C'est vraiment une ville qui me tient à cœur.
T'es pas originaire de Marseille?
Pas du tout.
Mais comment t'as découvert cette ville?
En week-end.
Comme ça, et t'as coup de cœur.
Ouais, mais d'ailleurs, tu sais, après le Covid, il y a quand même pas mal de Parisiens qui sont venus s'installer à Marseille parce que, on va pas se mentir, là, tu vois, je sais que demain matin, je vais me lever, je vais avoir la lumière de Marseille, soleil de Marseille. Enfin, moi, quand on dit du mal de Marseille, ça me fait chier. Enfin, ça me fait chier. Ça m'arrange, on va dire, parce que je me dis, bon, bah, c'est pas grave, les mecs connaîtront pas, mais moi, tous mes potes, ma famille qui viennent à Marseille, c'est une énergie vraiment particulière. Et franchement, Paris, c'est devenu dur, putain. Tu vois, là, je suis arrivé à la bourre, les embouteillages, alors je vais pas faire le mec qui va dire Hidalgo, parce que mais je peux juste dire un truc, je sais pas comment ça va se passer pendant les Jeux Olympiques, mais sachez un truc, je serai pas là.
pas beaucoup de monde sera là, je pense.
Ah ouais, c'est un enfer. Et je suis en scout.
Georges, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la créativité. Donc, toi, avant, on va dire, d'être business, t'étais créatif.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui se disent la créativité, c'est un truc qui est inné. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est comme ça. C'est un peu ça te tombe dessus quand t'es petit, tu vois, tu tombes dans la marmite ou pas. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu crois que c'est vrai? Il y a des gens plus créatifs que d'autres. Ok, ça sans doute.
Ouais,
mais est-ce que ça se cultive, quoi, d'une certaine
manière? Alors, ça se cultive, clairement. Ça se cultive. Tu deviens, tu vois, moi, par exemple, j'ai 54 ans. Je pense que je suis un meilleur créatif que quand j'avais 23 ans. Parce que je vais plus vite, j'ai un peu des techniques, je sais me mettre même dans un état de création. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas de la sophrologie, mais pas loin.
Et alors, raconte-moi, ça m'intéresse.
Chacun a son truc, hein. J'en ai déjà parlé avec d'autres gens. Moi, souvent, dans les moments de demi-sommeil, juste avant de m'endormir. Et donc, j'aime la sieste. Donc, j'adore le faire aussi, juste avant la sieste. Je sais pas, il y a une sorte d'extra-lucidité créative qui s'opère en moi. Tout le monde a sa petite technique. Moi, elle est souvent comme ça. Et après, il y a aussi dans les réunions qu'on fait et tout. Mais le moment le plus intense pour la créativité, pour moi, c'est ça. Et j'adore ce moment-là. C'est-à-dire, je sais que je vais arriver dans un endroit. Alors, par contre, des fois, j'ai des idées dans ce demi-sommeil. Et quand je me réveille, je me dis, c'est vraiment de la merde.
Les fameuses idées de merde de la nuit.
Ah bah oui, les fameuses idées de merde de la nuit.
Mais au moins, t'as la lucidité de le voir.
Oui, oui, c'est la même chose qu'à une époque, je fumais un peu de bœuf ou de shit. T'avais un peu ce truc-là, tu sais, tu fumes et tu dis, putain, j'ai une idée de malade et tout. Le lendemain, tu te lèves, tu fais, c'est nul, absolument. Et donc, alors, un des clichés qui marche pas, c'est vraiment, la drogue, ça ne sert pas à être créatif.
Donc ça, c'est bien.
Mais alors, vraiment pas. Si, alors moi, en tout cas, moi, hein, je sais pas les autres, mais, moi, c'est tout sauf être créatif. Ça, d'ailleurs, je fume plus depuis que j'ai, je pense, 30 piges.
Et alors, tu disais, ça se cultive. Donc, trouver des moments où son truc à soi pour être un peu créatif.
Ouais.
C'est quoi? C'est aussi s'entourer de personnes, faire de la veille. C'est un peu chiant de le dire comme ça, mais s'intéresser, être curieux.
Ouais, ça, pour moi, c'est, tu vois, moi, par exemple, c'est pour ça, peut-être, je dois rectifier quand je dis, j'aime bien rien faire. Mais tu vois, par exemple, je lis plein de trucs, tu vois, sur Twitter, je suis abonné à plein. En fait, je suis quand même toujours...
T'es tout le temps en train de te
nourrir,
quoi.
Ouais, je suis quand même... Et puis j'adore... En fait, j'ai une curiosité dans laquelle je me force pas. C'est pas un truc où je me dis, putain, aujourd'hui, il faut que je me lève à 6h30 pour lire la tribune. Ça, c'est pas moi. Par contre, tu vois, prendre un sujet et m'y intéresser en lisant des trucs sur internet ou dans les journaux et tout, alors beaucoup sur internet malheureusement maintenant, mais ça, je peux y passer beaucoup de temps. Donc il y a une grosse curiosité, j'adore la géopolitique, j'adore les infos, tu vois, c'est con, mais les infos, moi je peux pas rester, j'ai du mal à cuter pendant 15 jours sur les infos. J'ai besoin de savoir le monde dans lequel je vis, j'ai besoin de le sentir. Mais des fois c'est même 10 minutes hein, mais j'ai besoin de savoir dans le monde dans lequel j'évolue. Et c'est inné, c'est-à-dire si je l'ai pas, je me sens pas très bien. Et après, franchement, si t'es pas créatif au fond de toi et que tu dis j'aimerais être créatif, c'est pas gagné. Ceci étant dit, quand tu dis j'aimerais être créatif, c'est que t'as envie. Donc déjà d'avoir l'envie, c'est pas mal aussi. Créatif dans la pub, c'est un truc particulier. Il y a créatif. Tu sais, moi, j'ai vu des avocats créatifs. Hein.
Ouais, ouais, bah
mon avocat, quand on faisait le deal, il avait des trucs de créativité où je me disais, putain, c'est génial de faire ça.
Bah, c'est un jeu, quoi. Un peu.
C'est un jeu, c'est un... Tu vois, et je trouve ça... En fait, moi, je vois de la créativité dans plein de trucs. Et je pense que tout le monde, entre guillemets, peut être créatif. Mais je pense, contrairement à certaines personnes, il y a des gens qui sont...
Plus que d'autres.
Ouais, qui ont une fibre là-dedans. Tu vois, moi, je vois à l'agence, par exemple, il y a 4 personnes auxquelles je pense, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans et ils ont une maturité créative de mecs de 50 piges.
Et alors, c'est quoi une maturité créative? Ça veut dire quoi, en fait, concrètement? C'est qu'ils captent vite, c'est qu'ils ont plein d'idées, enfin...
C'est capter vite, plein d'idées et où il n'y a pas de gras.
Pas de gras. Vas-y,
pas de gras,
raconte.
Ça veut dire que le truc est parfait. Tu sais, les gens qui te donnent une idée de...
Il n'y a pas d'esbrouf, quoi.
Non, mais il n'y a pas de déchets. Et le mec te raconte une idée de pub et t'as rien à rajouter. Et tu fais, bah, ok, c'est ça.
C'est quoi
l'idée? Et en fait, en général, quand t'es jeune, t'as un bout de l'idée, t'as une esquisse de l'idée et les directeurs de création, moi, on doit rajouter des trucs, des petites couches pour que le truc soit parfait. Là, il y a tu vois, ces gens-là, franchement, à 54 ans et donc, putain, j'ai 30 ans de carrière, je pense que je vais fêter mes 30 ans de carrière cette année. Non, putain, c'est l'année dernière. C'est la première fois que je vois des gens qui ont cette maturité du truc où les mecs, c'est des seniors, quoi. C'est des mecs qui...
C'est complet, quoi.
C'est complet. Les mecs arrivent, ils te présentent le truc, t'as rien à changer, ça, c'est limite chiant, en fait. Ça finit par être un peu rébarbatif. Mais c'est cool parce que c'est, tu vois, moi, je trouve que mon métier est... Il est incroyable pour ça. Tu rencontres des gens qui sont très très. Moi, je rencontre des gens qui sont meilleurs que moi. Et c'est pas du tout démago. Moi, j'adore. Déjà, quand t'as un mec plus fort que toi, ben déjà t'es rassuré. Ça te rassure. Deux, je sais pas, c'est hyper glorifiant. Pour alors là, pour le coup, je trouve ça très valorisant pour l'ego des gens de l'agence, et puis pour moi de dire on a au sein de l'agence des gens qui sont aussi forts. On a vraiment des gens à l'agence qui sont vraiment forts. De toute façon, on fait pas toutes ces campagnes.
Oui, oui. Tu vois, moi, de toute façon, c'est que du capital humain.
Quand les mecs te disent oui, mais si tu pars de l'agence, non, je dis non, excuse-moi, il y a des mecs à l'agence, c'est des fusées, quoi. J'appelle souvent l'agence la NASA.
C'est sympa.
Parce qu'il n'y a que des fusées.
Non, alors attends, je vais quand même te poser une question. C'est quoi quelques très très grandes fiertés créatives, pas forcément que, enfin des idées que toi t'aurais eues, mais vraiment le truc où tu dis là on a été vraiment très très bon. J'aimerais bien que tu m'en parles. Et à la rigueur, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment c'est venu. Tu vois, que tu m'accompagnes dans le process.
Alors. La dernière fois tu m'avais interviewé, je t'avais raconté déjà, il y avait Tipex, ouais. Il y avait Milka, le dernier carré et tout. Donc là,
qui était assez génial, je dois dire.
Ouais, c'était cool.
Je vous invite d'ailleurs, messieurs, dames, je l'ai dit en intro, mais je vous invite à écouter évidemment l'épisode qu'on avait fait avec Georges en 2019.
Donc du coup, je parlerai plutôt de post, notre premier podcast. Je dirais, le truc qu'on a fait sur Burger King pendant le confinement.
Vous avez eu un prix d'ailleurs.
On a eu le grand prix stratégie pour cette campagne. Et en fait, c'est un peu un truc que j'espère je n'aurai plus à refaire, c'est faire des campagnes gratuitement. C'est-à-dire pas gratuitement financièrement, ça on sait pas faire. on est l'agence la plus chère de Paname et je continue et je veux qu'on continue de l'être. Mais non, je veux dire gratuitement dans le sens où on n'avait rien à vendre. En fait, les gens pouvaient pas sortir.
Ah oui, c'est vrai.
Et donc, en fait, un jour, on s'est dit avec les gens de Burger King, il faut qu'on fasse kiffer les gens.
C'est vous qui leur proposez ou c'est eux qui sont venus vous voir?
Non, c'est nous. Ouais, je pense que, tu vois, en fait, comme les gens se faisaient chier, les gens de l'agence nous balançaient des idées, mais sauf qu'on n'avait rien à vendre. Donc, on avait fait le premier truc qu'on avait fait, c'était le Whopper de la quarantaine, où en gros, on disait comment faire le Whopper, mais de chez toi. Donc, on avait fait un deal avec Carrefour où t'allais chez Carrefour et t'achetais...
Pas ton jambon en l'occurrence, mais ton steak.
Ton steak Charal, ouais. Ton pain chez Jacquet. Donc, on a expliqué comment faire la sauce et tout. Et en fait, le truc a cartonné. Les gens nous envoyaient des vidéos de eux en train de faire le Whopper de la quarantaine. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, on s'est dit, putain, c'est génial. On est en train de faire kiffer les gens alors qu'ils sont dans un truc où c'est pas du tout cool.
Ouais.
Et de là, on s'est dit, voilà, ben là, on va être les amuseurs publics. En fait, on va faire que de l'amusement public. Et franchement, on n'avait pas plus de stratégie que ça. On s'est juste dit, on se fait chier, venez, on fait des trucs qui nous font gueulerie.
Bon, et puis par ailleurs, c'est un moment où il y avait vachement d'attention.
Les gens n'avaient rien à faire. Donc en fait, on s'est dit, en plus là, on a une audience de malades et tout, let's go. Et on en a fait un, on en a fait deux, on en a fait trois. Et vraiment, on a fait j'ai pas honte. Je crois pas me tromper. Je pense que dans le confinement, on a été l'agence et le client qui ont fait les meilleurs trucs dans le monde. On a été interviewé là-dessus hein, par le magazine Ad Age, je crois, en disant comment on avait fait pour faire, parce qu'on a fait des trucs genre des fois on sortait des trucs tous les deux jours, et surtout on avait fait une bâche sur un truc en disant ne vous approchez pas trop de toujours garder ses distances avec votre voisin, et en fait c'était un McDo. surtout si c'est un clown ou un truc comme ça, bref. On en avait fait plein des tweets dans tous les sens et tout. Et il y a eu le climax qui a été commandé chez McDo, je sais pas si tu te rappelles de ce truc.
Ça me dit quelque chose.
On avait fait
chose.
Une annonce dans le journal du dimanche qui disait commandé chez McDo. Ou chez KFC, ou chez Quick, ou nanana, ou et des restaurateurs indépendants. Et en gros, on disait, en fait, c'est tellement la merde qu'en fait, on a tous dans le même merdier, on a tous des problèmes d'emploi et tout. Donc, soyons solidaires. Et le truc a fait le tour du monde. Et surtout, ça a fait le tour du monde. Et surtout, il y a plein d'autres, dans plein d'autres secteurs et dans plein d'autres pays, les marques parlaient de genre Hertz, parlaient de Sixt, exactement, et tout le monde a commencé à refaire cette annonce avec la même gueule et tout, et ça a été incroyable. C'est à dire que c'est ça, moi je recevais des textos qui me disaient putain mais t'as brûlé mon LinkedIn, tout le monde repose ce truc, c'est insupportable. Et les mecs me faisaient des screens de vidéos comme ça avec tous les trucs et tout le monde repostait ce truc, et je pense qu'on a fait un hit, mais on l'aurait pas fait cette annonce là. Si on n'avait pas fait tout le reste, ça aurait pas eu ce... Tu sais, c'était vraiment le couronnement de... Et un peu le couronnement de tout le travail qu'on a fait. Ça devait être en octobre, novembre, je crois. Et on avait fait plein de trucs, tu vois, on avait mis en avant sur Instagram, on avait mis en avant d'autres restos, carrément. On avait notre Instagram, tous les jours, on mettait un restaurateur, le plat d'un restaurateur, mais c'était pas nous, quoi. Bref, franchement, cette campagne était assez dingue. Et le summum, c'est que 10 jours après, on a eu une vidéo au Mexique. Et des mecs qui tiennent un truc, je te dis n'importe quoi, de poulet frit. Je connaissais plus la marque, mais les mecs, tout, imagine, c'était assez émouvant. Hein. C'était, t'avais tous les mecs habillés avec leurs uniformes, quoi, qui étaient chez Burger King. Et qui disait, voilà, vous avez demandé aux gens d'aller chez McDo, ben nous, on va dire aux gens d'aller chez Burger King. Et c'était au Mexique. Et la vidéo, elle était au journal télévisé et tout, ça durait 1 minute et demie. Putain, on a bu ça, on s'est dit, putain, c'est quand même dingue, quoi, l'effet papillon d'une annonce dans le journal du dimanche qui se retrouve. Et vraiment, on a eu tout, aux États-Unis, tout le monde en a parlé. Et c'était, franchement, c'était Tipex, mais où on vendait rien. Tu vois, on vendait la solidarité à un moment où, tu vois, tout le monde était un peu scotché en se disant « Putain, qu'est-ce qui va nous arriver ?» et tout. Et je trouve qu'on a amené un truc qui a fait du bien aux gens, en fait.
Oui, oui, et puis ça aurait pas du tout été approprié de vendre quelque chose à ce moment-là.
Exactement. Et évidemment, au bout d'un an, quand on regarde les chiffres et quand on regarde notre pourcentage, parce que quand ça a
réouvert, la notoriété,
la préférence de marque, on avait tué le game. C'est-à-dire qu'on avait gagné, je sais pas, 5 ou 10% de préférence, l'intention d'achat chez Burger King. Et ça a été, et on peut se le dire, on parle du petit concurrent de McDonald's qui est une institution.
Ça paraît énorme, Burger King, mais par rapport à McDonald's, c'est en fait.
Alors, c'est devenu énorme, mais il y a 10 ans, parce que là, on fête nos 10 ans, avec Burger King, et c'était un restaurant. Là, on en a 500. Je dis on parce que bon, j'ai l'impression que
c'est un peu le cas.
Et ça a été, ouais, c'est le truc. Et franchement, le commander chez McDo, je te montrerai tout à l'heure. Ce qui est génial surtout, c'est qu'on a tout fait en WhatsApp.
C'est une
de mes équipes qui m'a envoyé la maquette et j'ai dit bravo, c'est super. Et l'autre créatif me dit bon, maintenant il va falloir le vendre à Burger King, je l'ai envoyé, donc c'est 19h19, j'ai encore les horaires, parce que j'ai fait un screenshot de ce truc. 19h19, je l'envoie dans notre groupe, parce que dans notre groupe, on est 5. 2 mecs de Burger King, enfin un mec et une meuf, je suis désolé quand je dis mec, c'est... Donc Carole et Alex, et nous on est Julien, Loïc et moi. Et donc je le mets sur notre groupe, et 19h22, le boss de Burger King me dit génial, let's do it.
On y va, quoi.
Ouais. Et chez 19h25, je l'envoie, ou 19h23, je l'envoie à mes équipes en disant simple formalité. Et le truc, c'était, on était mercredi, et le truc est sorti, on était jeudi, le truc est sorti le dimanche, on l'a fait en speed, et c'est sorti dimanche. Et ça s'est fait sans qu'on se parle. On s'est pas parlé, on s'est pas appelé, le mec m'a pas dit, ouais, mais tu te rends compte, on va faire la pub de McDonald's, enfin, normalement, cette annonce, pour qu'elle sorte, déjà, il faut être aussi débile qu'Alexandre Simon pour se dire, vas-y, let's go. Et deux, surtout, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de tergiversation, le juridique, que va dire le juridique, et puis quand même, on dit d'aller.
Oui, mais comme tu dis, ça faisait aussi des semaines que vous faisiez, tu vois, des rebonds, des trucs.
Oui,
cool.
mais cette annonce, elle aurait jamais dû voir le jour.
Non, je suis d'accord, mais je veux dire, elle l'aurait pas vu le jour si ça avait été la première, peut-être, quoi.
Ouais, mais franchement, même avec les relations qu'on avait et la confiance qu'ils avaient en nous, même moi, tu vois, je me suis dit, putain, comment des
choses. Ils osent, en fait.
C'est chaud.
Tu sais, c'est le truc des créatifs. Ouais. Et pour la petite anecdote, BETC m'avait dit ça, tu sais, j'avais fait une pub, le chat rose, et ils m'ont dit,
ouais.
Mais en fait, ils l'ont fait, parce qu'ils nous l'avaient fait la proposition, et je crois qu'ils pensaient qu'on allait prendre l'autre option, tu vois. Et
donc, j'ai dit, non,
mais on le fait.
Bien sûr.
C'était un peu le coup classique, tu vois, de,
bah, ah, mais nous, attends. Je vais même te dire, nous, c'est le truc où on se dit que c'est ça qu'il faut présenter. C'est qu'on se dit, si les mecs achètent ça, c'est vraiment que c'est des tarés.
Ouais.
Tu vois, la campagne qu'on avait fait avec Brad Pitt, je sais pas si...
C'est une Nespresso, non?
Pas du tout. C'était Boursorama.
Ah oui, tout à fait.
George Clooney, Nespresso.
Oui, excuse-moi.
Et ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait deux pistes et je présente celle-là en disant, bon, je vous présente un truc, vous allez pas le faire parce que c'était avec DiCaprio. Je sais que vous allez pas le faire. Mais je vous le présente parce que ça me fait marrer de vous le présenter. Et en fait, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit non, on va le faire. Donc, en fait, ce truc de, tu sais, les créatifs qui osent te le présenter à toi, toi, t'oses le présenter à ton client, et ton client, des fois, c'est pas forcément le CEO. Après, il faut qu'il aille le vendre au CEO. Il y a que des gens un peu, qui sont un peu gaulés de la même façon. Et moi, j'ai presque pas trop envie de dire que c'est de l'audace, parce que c'est de l'audace, mais en fait, c'est du bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, bah oui, bien sûr que c'est du bon sens de faire ça, parce que à l'inverse, faire un truc naze, c'est débile de prendre son argent et le dépenser pour faire des trucs nazes.
Des trucs moyens, ouais.
Trucs moyens, et puis des fois, quand tu vois, moi j'ai pas honte de le dire, hein, la pub, je la déteste quand je regarde la télé. Je me dis deux choses. Je me dis, un, comment les gens sont payés pour faire ça? Deux, comment les gens sont assez cons pour les acheter et les faire et dépenser leur argent pour le faire? Et trois, je me dis, c'est cool parce que du coup, c'est facile de mieux faire. De tirer son épingle du jeu.
Et vous le faites très bien. Écoute, comme le temps passe, Georges, on va passer à mon crible de fin.
Vas-y.
Je crois que je te l'avais pas fait la dernière fois, je t'avoue, je me rappelle pas bien. C'est des questions un peu philosophiques.
Ok.
Première, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler? Et surtout, au-delà de l'échec, moi, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements que tu en as tirés.
J'ai un système nerveux qui est gaulé de la façon suivante, c'est que tout ce qui est négatif, je les oublie.
C'est très bien. Comme ça, tu...
Ouais, en fait, mais c'est souvent, pas. Même mes potes et tout, mes associés me disent, mais tu te rappelles pas ce mec, il nous a fait ça? Et je fais, ben non. J'ai un peu une... Je crois que je m'encombre pas. Tu sais, ces logiciels là, qu'on te vend pour te dire de débarrasser les doublons de ton téléphone.
Mmh, tu fais du formatage, quoi.
Ouais, je crois que j'ai un truc qui fait que dès que c'est de la merde ou que ça me fait chier, ça part dans les oubliettes. C'est franchement pas qu'une joke, c'est vraiment vrai. Mais j'ai eu des échecs, bien sûr, j'en ai eu plein. Déjà dans ce métier, t'en as un par semaine, hein.
Oui, ou t'as un client qui te signe pas.
Bah oui, t'as une campagne auquel tu crois de ouf, tu leur présentes et on te dit non, on va pas le faire. Moi, ça m'arrive. Et des trucs auxquels je suis très très attaché. J'ai en tête un film Ikea que j'adorais et c'était un, et pas parce que je suis rebeu, mais les créatifs avaient écrit ce film que j'adorais. C'était pendant Noël et il y avait une famille c'était deux pavillons qui étaient face à face et il y avait une famille qui était en train de préparer Noël et c'était la fête et en face d'eux il y avait un vieux rebeu qui lui était un peu triste mais pas parce que, et en fait à la fin tu te rendais compte qu'il était triste parce qu'il était tout seul. Et pas parce qu'il fêtait pas Noël, c'est juste que comme il était musulman, en fait, ils sont foutés que ça soit, en fait, il fêtait pas Noël. Par contre, il était touché par le fait que les gens l'aient invité avec les amis. Donc, c'était surtout le rôle de la famille et de se retrouver avec les proches que le mec avait touché. Il dit, mais non, en fait, pas Noël. Je sais pas que ça se finissait comme ça, mais je trouvais ça génial d'avoir fait ce film et ce film-là, pour moi, tu vois, pareil, typiquement, pour moi, c'était une évidence de le faire. Je trouvais ça génial, au-delà même du message d'IKEA. Je trouvais même par rapport à le monde dans lequel on vit et tout, je trouvais que c'était un truc super positif. Qui sait, peut-être qu'un jour on le fera. Je sais pas, Carole.
Si tu nous écoutes. Eh ben, le message est passé. Ok, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment?
S'il y avait quelque chose à refaire, putain. Non, j'allais dire faire des enfants avant, mais en fait, non. Non, je suis très bien comme ça.
Oui, parce que tu l'as eu à 54.
Ouais, je l'ai eu à 53. Non, j'avais 54. J'ai eu 54 ans 7 jours après. Non, faire des enfants après. Avant, ça aurait été cool parce que c'est quand même un truc de ouf. On me l'avait déjà dit, hein, je le savais. Mais en fait, non, je le fais avec la femme que je veux et aujourd'hui, je m'en occupe vraiment comme je m'en serais pas bien occupé il y a 15 ans. Tu vois, j'étais dans le début de l'agence, par exemple. Là, j'ai du temps. Tu vois, je suis patron d'agence, investisseur immobilier et homme au foyer. Je me partage entre ces trois fonctions.
Trop sympa. Une question que j'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau esthétiquement,
Bon, déjà, je vais dire ma meuf. Hein, elle est d'une acte.
Bravo.
Comme là, comme ça, elle va, je vais gagner des puntos.
C'est bien. C'est la première fois qu'on me le dit. Et du coup, t'as bien raison.
Non, mais c'est vrai, je la trouve très belle, ma femme.
Eh ben, c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose? ou une autre
que
personne.
Je trouve beau. Alors moi, je suis de la même façon que je suis très ancré sur terre et très dans le moment présent et tout, il y a plein de trucs que je trouve beau, mais vraiment de la déco,
t'as l'émerveillement esthétique facile.
Hyper facile. Moi, je peux être je peux me foutre comme ça sur une terrasse et voir des vagues ou un ciel et je peux rester 10 minutes en me disant putain, c'est quand même génial, non? C'est quand même magnifique, non? Je peux être un peu relou d'ailleurs. Je peux avoir la contemplation un peu naïve, mais mais des trucs que je trouve beaucoup, les trucs de déco. Ça peut vraiment me toucher, tu vois. D'accord. Arriver dans un endroit où je suis arrivé de chez toi là, j'ai vu le truc avec les vitraux, je me suis dit putain, t'imagines, il y a des vitraux, c'est magnifique. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien un jour faire un truc dans une église.
Ah ouais.
Ou un phare. Je trouve que c'est des objets où il y a beaucoup de solitude finalement et où en fait tu pourrais remplir de, mais c'est pas nouveau, hein. Il y a plein de gens qui ont fait des hôtels dans les églises et tout.
À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, qui t'énervent, que tu supportes pas?
Numéro un, par-dessus tout, l'avarice. Radinerie, ça pour moi, c'est éliminatoire. Il y a des gens, je leur en veux pas, hein, mais je peux pas parler avec ces gens. Et les gens rancuniers aussi. Les gens qui,
oui, qui te ressortent le truc 3-4 ans plus tard.
Ou qui mettent du temps à passer. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris qu'ils allaient avoir qu'une vie. Et on en a vraiment malheureusement qu'une. À moins que tu aies un chat. Et que tu vas, ou que tu aies un doux. Mais des fois j'y pense, je me dis putain, ça doit être quand même pas mal d'être bouddhiste ou hindou.
Oui, parce que c'est rassurant, quoi.
Bah ouais, parce que là, quand tu dis putain, dans, allez, 20, 30 piges, t'es plus là. Tiens, t'as pas le temps d'être rancunier, quoi. On va pas être rancunier, hein. Vas-y, on est potes, on va pas se faire chier à faire la gueule, alors qu'on va crever.
En tout cas, la prochaine fois, je serai une pierre, donc pas de problème.
Non, mais moi, ça me fatigue. J'ai les gens qui sont rancuniers, tu vois. Ok, on s'engueule, et des fois, on s'engueule fort. Mais
tu passes à autre chose rapidement, quoi.
Mais vraiment, je te jure, la justification, c'est parce que j'ai qu'une vie. Et je me dis, putain, mais dans un moment, on sera plus là. Du coup, on va rester sur ce truc. Ça marche pas. Ça marche pas.
De sages paroles
d'un mec qui a pris des cheveux gris depuis 5 ans.
Non, mais c'est pour ça que je te pose les questions, c'est intéressant. Alors attends, j'en ai encore 3-4. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime que tu aimes particulièrement, qui te parle, ou juste une phrase, tu vois, un peu, que t'apprécies?
Il faut toujours mettre la barre haute parce qu'on peut passer dessous.
Il faut toujours mettre la barre haute parce qu'on peut passer dessous.
Ouais.
Ah, c'est sympa. C'est pas mal.
J'adore cette phrase.
La connaissais pas, tu vois.
Bah, c'est un directeur de création qui s'appelle Benoît de Varieux qui disait toujours ça et j'adore. Parce qu'en fait, tu vois, il faut mettre la barre haute, tu vois, il disait toujours, putain, il faut y aller. Mais en même temps, on peut passer dessous. Donc, smart, on peut faire un autre truc.
Ouais, ouais.
J'aimais bien cette phrase.
Ok, j'aime bien ça, aussi.
Je l'ai prise à mon compte avec une autre phrase où c'est moi pour le coup. Où je dis, on va crever pour avoir la meilleure idée, mais si on l'a pas, on va pas mourir. Je l'aime bien, celle-là.
Donc
aussi.
Tu donnes le max, et puis tant pis si ça marche pas.
Si ça part, on l'aura une autre fois, ou pas d'ailleurs.
Un sujet sur lequel tu aurais changé d'avis. Est-ce que ça t'est arrivé de changer d'avis?
Oui, bien sûr. Beaucoup. Je pense que dans le monde du travail, on peut, à un certain niveau, penser que tout est facile, et ça l'est pas. En fait, moi, il y a pendant longtemps, je me disais, mais c'est facile, en fait, de bien taffer, gagner sa vie, réussir, avoir un bon lifestyle. En fait, j'avais l'impression que ma life, c'est la life que tout le monde pouvait avoir, parce que je me disais, moi qui viens de rien, bah, j'ai réussi à faire ce truc, donc je suis pas un mec supérieurement intelligent. Je sais pas, un mec qui a de l'argent, j'ai pas la famille qui m'a aidé j'ai ma famille qui m'a aidé intellectuellement,
oui, mais pas
et tout, mais voilà. Et du coup, je me disais, mais du coup, moi, comme je suis un mec lambda, tout le monde devrait réussir à faire ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper dur pour plein de raisons qui sont malheureusement assez profondes, souvent qui sont liées. Alors je vais pas faire le psy, mais qui sont liés à l'enfance, à la façon dont les gens sont éduqués. Tu vois, par exemple, moi j'ai découvert un truc que je comprenais pas, que j'ai pas compris pendant longtemps, c'est qu'il y a des gens qui sont pas gaulés comme moi. Moi, je dis, on peut tout tenter. On peut tout essayer. Et si on se trompe, bah, pas grave, on s'en fout. Encore une fois, on va pas mourir, quoi. Et il y a des gens, pendant ma carrière, notamment, et dans la vie, en fait, c'est ma carrière qui m'a rendu, qui m'a fait progresser dans ma vie personnelle, qui sont pas comme ça. Qui tentent pas parce que dans leur famille, il fallait être silencieux, il fallait être ne pas se faire remarquer. Moi, ma mère, elle était comme ça. Mais moi, par révolte, j'ai pas été comme ça. Mais tu vois, il y a des gens, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'arrive à l'aéroport, ça me fait chier de faire la queue. Donc, des fois, je passe dans le truc des équipages. C'est pas bien. C'est pas, j'en suis conscient, c'est pas bien.
Mais ça passe.
Mais ça passe. Et je me dis, en fait, comme il y a que moi qui le fais, bah, du coup, bah, les autres, ils le font pas. Du coup, il y a pas la queue là où il y a la queue des, la file de l'équipage. Et je trouve que c'est pas de l'irrespect. En fait, entre guillemets, je profite du fait que les gens, globalement, sont assez éduqués.
Respectueux, ouais.
Et assez respectueux.
Et bon élève.
Et bon élève, voilà. Bon élève. Et moi, je suis pas un bon élève. Et j'ai pas honte de le dire. Et j'ai découvert ça sur le tard. Je me suis dit, putain, mais en fait, les gens, ils le font pas. Pourquoi ils le font pas? Et après, je me suis dit, mais c'est cool qu'ils le fassent pas, parce que si tout le monde prenait cette file, en fait, il y aurait la queue aussi.
Ouais, c'est clair.
Dans cette file. Du coup, je me suis dit, merde, en fait, ça m'arrange bien qu'il soit comme ça. Et je me suis dit, par contre, t'es pas un mec sympa de le faire, parce que tu profites du fait qu'il soit pas comme ça, eux. Et je me suis dit, mais.
Bon.
Destiny. Tu vois, en fait, c'est tous ces trucs-là de tout le monde n'est pas gaulé comme toi.
Le mindset, quoi, différent.
Ouais, mais c'est ouais, en fait, c'est le jour où, tu vois, je l'ai toujours pensé, mais le jour où ça t'arrive où tu dis, putain, mais en fait, non, mais clairement, on n'est pas gaulé pareil, tous, et tout le monde peut pas avancer au même niveau, tout le monde peut pas faire les mêmes choses. Tu vois, moi, tu me dis, fais du saut à l'élastique ou du parachute. Les mecs qui font ça, pour moi, c'est des putains de prix Nobel. Je suis hyper admiratif. Moi, j'ai envie de crever. Déjà, même quand je vois les mecs sauter, je me dis, et en fait, il y a des mecs qui sont gaulés comme ça. C'est leur, ce que j'appelle, ils ont ce chromosome-là. Moi, j'ai ce chromosome que finalement, il n'y a pas tant de gens qui l'ont d'être un peu, ouais, sur,
un peu border, quoi.
Un peu,
pas ouais. Border. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, tu vois les opportunités.
Ouais,
et
ouais.
Et tu
ouais.
sais les saisir.
Mais en fait, c'est tout ça, il y a un même truc. En fait, je me dis, putain, ça fait chier quand même de faire la queue. En fait, tous les trucs qui me font perdre du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le truc, alors, un des trucs qui m'irrite, c'est la perte de temps. La perte de temps, les trajets. Autant j'adore le train, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'on invente la téléportation.
Bah, c'est sûr.
Pour moi, si je devais faire un vœu, donc là, les amis qui m'écoutent, et qui nous écoute, s'il vous plaît, grouillez-vous, parce que ça, c'est mon rêve. Pour le coup, si j'ai un dernier rêve dans ma life, c'est ça. Non, mais je suis très sérieux. Hein. C'est vivre la téléportation de mon vivant. Ça doit être dingue. T'imagines, là, on finit, je fais clac, et je suis chez moi, à Marseille.
Ah, j'avoue.
Avec une petite bière.
Tranquille.
Non, mais tu vois.
Et t'y crois?
Hein?
T'y crois?
J'y crois, ouais. Ouais, j'y crois parce que.
Bah, je nous le souhaite à tous, je vais te dire.
Ouais, ça serait génial. Et même, je suis allé tellement loin parce que je me suis même posé des questions sur, par exemple, si la téléportation existe, est-ce qu'il y a une téléportation première et seconde classe?
Ah.
Tu vois, j'ai pensé à des trucs comme ça.
Dans le truc.
Ou, est-ce qu'il y aura, des contrôleurs? Est-ce que tu pourras frauder? Et la dernière question que je me pose, que je trouve assez gaulerie, c'est tu dis, je veux aller, aux Bahamas sur une île. Tous les deux. Enfin, toi, t'es, je sais pas, à Angers et tu dis, je veux aller aux Bahamas. Et comment, si on a décidé d'aller au même endroit, comment ça se passe? Tu vois, parce que.
Oui, tu peux pas être au même endroit en même temps.
Ouais, donc il faut calculer la position. D'accord. Parce que sinon, ça veut dire que toi et moi, on se rejoint au même endroit exactement. Donc, on se confond. Bref, je me suis fait un délire sur la téléportation. Sans drogue, je précise.
Merci. Juste avant une sieste, sans doute.
Non, c'est un sujet, et je pense que c'est un sujet auquel je pense depuis très longtemps.
Okay.
Bah, moi, j'ai un vrai sujet sur le temps, la mort, la vie. Enfin, moi, je pense que je suis un kiffeur parce que je sais que tout ça va s'arrêter, tu vois, aussi.
Ouais, mais ça sent, en fait, t'en parles.
Ouais, c'est un sujet, mais c'est un sujet philosophique que je trouve assez intéressant, même, tu vois. Je trouve que c'est un, qui est pas souvent abordé.
Bah, d'où d'ailleurs la liste des 50 trucs à faire pour tes 50 ans.
Exactement, ouais.
Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un ou des livres ou films ou, je sais pas, objets culturels, on va dire, qui t'ont particulièrement marqué, impacté, pas forcément, tu vois, le dernier que t'as lu, mais quelque chose vraiment de fort qui t'a marqué, dont tu pourrais nous parler et nous dire pourquoi, en fait, tu trouves que c'est un truc important.
Je pense que la première fois, on s'était vu, je t'avais parlé de Camus, ouais. le bouquin L'étranger, que je relis régulièrement une fois tous les 5-6 ans. Non, je pense que dans ma life, là, ce qui a... C'est plutôt des... je dirais la cinématographie de Martin Scorsese.
Ah.
Ouais.
Un film en particulier ?
Alors oui, Casino, Les Affranchis, enfin tous en fait. Ces deux-là peut-être en particulier. Mais je trouve que la cinématographie de... Toute sa filmographie m'a... Je sais pas, elle m'a appris plein de choses... Bon, à la fois pour mon métier, pour réaliser le son, les musiques, la musique sur les images. Enfin, ça a beaucoup changé ma vie, en fait. Et la façon de réaliser, l'intensité des personnages, la fidélité à ses comédiens, parce qu'ils bossent toujours en équipe. Je trouve ça rigolo, d'ailleurs, là. Tu sais, je sais pas si t'as fait gaffe, mais avant, c'était De Niro et Joe Pesci. Maintenant, c'est DiCaprio et De Niro.
Ouais, ouais.
Et... je sais pas, ça me fait rêver, en fait. Tu vois, de la même façon que les gamins, ils regardent La Petite Sirène aujourd'hui. Moi, quand je regarde un film de Scorsese, j'ai l'impression d'être, tu vois, d'avoir 5 ans. Et je pense que ça m'a vachement, ouais, ça a changé 2 ou 3 trucs dans ma life, perso.
Écoute, ça me donne envie de revoir Casino.
Casino, c'est, enfin, tu vois, Sharon Stone, elle est extraordinaire.
Exceptionnelle, ouais.
Extraordinaire. Elle est, enfin, t'as vraiment envie de la buter quand elle rejoint son mec qui a un camé et que t'as envie de buter aussi. Mais t'as vraiment envie, c'est-à-dire tu dis putain mais alors que lui il est super gentil et tout. Et en même temps c'est un mec de la mafia. Bref, c'est toujours très complexe, donc c'est très intéressant. Et je pourrais dire la même chose sur la musique. Il y a vraiment des musiques qui ont jalonné ma vie et qui continuent aujourd'hui. Tu vois, j'adore là. Quand je prends un train, j'adore écouter de la zik pendant que... Je sais pas si t'as fait cet exercice. C'est quand t'es dans le train, tu t'essaieras, tu prends une vidéo de 30 secondes avec juste le paysage qui défile et ensuite dessus tu mets une musique. Tu peux faire ça sur Instagram, c'est hyper facile. Et tu vas voir, ça fait pas du tout la même...
Ouais, c'est sûr.
Une musique mélancolique ou du rap ou de la musique bulgare, ça te fait pas du tout la même vibe. Et j'adore ce truc. C'est un...
Oui, ça te transporte tout de suite, la musique.
Ouais. Ouais. C'est, quand j'ai un petit coup de déprime, tu mets un peu il y a un ou deux morceaux comme ça qui peuvent me faire un...
Vas-y, dis-moi, balance-moi un. Un ou
deux. Moi, tu mets, Tribe Called Quest, Check the Rhyme. C'est un groupe de rap. C'est pour moi le meilleur groupe de rap, ever. Et tu peux me mettre, ouais, je dirais ça, en fait. Tribe Called Quest. En vrai, les deux premiers albums de Tribe Called Quest, tu me les mets, je peux changer de... Tu vois, si j'ai un peu mélancolique ou nostalgique ou un dimanche ou une lendemain de caisse, tu sais. Lendemain de caisse, c'était un peu... Bah là, ça peut me remettre en selle.
Georges, merci. C'était comme d'habitude, sans filtre. C'était drôle, comme à chaque fois. On a appris plein de trucs. Je te remercie aussi parce que t'as partagé plein de trucs. C'est hyper généreux de ta part sur des sujets qui sont pas toujours publics, on va dire, la vente notamment.
Ouais, c'était intéressant d'en parler.
Donc
j'ai
merci
pas parlé
à toi.
Du nombre de millions.
Non.
Je rigole.
Du nombre
parce
de millions.
Parce que je pense que les mecs vont tous se mettre... Ouais, du coup, c'était combien la vente?
Bah alors, la bonne nouvelle, messieurs, dames, c'est que vous pouvez contacter Georges pour lui poser cette question.
Non, surtout pas. Non,
n'hésitez pas à le
non,
faire,
non,
il adore
pas,
avoir des messages. Georges, justement,
non,
c'était ma dernière question.
Que
où est-ce qu'on te contacte pour t'envoyer ce message?
On peut m'écrire sur LinkedIn.
LinkedIn c'est tu le réponds.
Ouais, LinkedIn, je réponds pas à tout le monde parce que franchement,
oui, il y a beaucoup de choses,
c'est compliqué. Et je te rappelle que j'ai ma gestion de mon kiff personnel.
Bien sûr.
Donc je peux pas répondre à tout le monde. D'ailleurs,
le
gens...
jeudi entre midi et 14h.
Non, mais tu sais, c'était Malène qui avait écrit un livre vachement intéressant là-dessus sur quand tu réponds, les gens qui répondent pas. Tu sais que notamment quand t'es dans le taf, les gens qui, tu vois, quand les gens t'envoient un mail et qu'au bout de 5 minutes tu réponds pas, et les mecs se disent mais tu m'as pas répondu à mon mail.
Ouais.
Et en fait, ou des textos, un pote qui t'écrit et tu dis, bah, je suis désolé, je faisais autre chose.
Oui, je suis aussi autre chose.
Quoi. Ouais, et en fait, des fois, il y a des gens, moi, je sais que sur LinkedIn, j'ai arrêté de répondre à tout le monde. Je te raconte juste ça pour finir. C'est qu'un jour, j'ai pas répondu à quelqu'un. Il m'a écrit un message, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et au bout d'un moment, j'ai eu pitié. Je me suis dit, putain, c'est quand même relou. Ce mec m'écrit 4 fois. Il va penser que je suis un connard, en fait. Et en fait, je le suis pas, mais j'ai pas eu le temps. Donc un jour, je me suis dit, bah, allez, vas-y, prends 2 secondes. Et je lui dis, je suis désolé, votre profil ne m'intéresse pas. Bon courage.
Merci,
pour la suite.
Ouais.
Et le mec me dit, ouais, c'est un scandale, vous avez attendu tout ce temps pour me répondre et tout. Je fais, je suis d'accord, mais justement, j'ai pris la peine de vous répondre là. Et en fait, notre discussion a été plus longue de lui avoir répondu que de n'avoir jamais
et
répondu.
Là, tu
parce que
dit,
moi,
plus jamais je réponds.
Et du coup, il y a des mecs maintenant, je sens, je me dis, lui, il faut pas que je mette la chemise dans le truc parce qu'il va me l'arracher et il va m'entraîner
mais
avec lui pendant.
Mais tu sais que c'est pas peu fréquent, hein, ce genre de phénomène, malheureusement.
Ah, ça t'est arrivé aussi. Oh.
C'est assez triste.
Mais ce que je peux comprendre, parce que quand les gens t'écrivent 5 fois, ils ont envie d'avoir une réponse. Mais en fait, en vrai, si on vous répond pas, c'est que peut-être on n'a pas la réponse.
Oui, ou on peut ne pas avoir le temps, pas avoir vu, c'est peut-être pas prioritaire. Et désolé, mais en fait, c'est comme ça et c'est le game. Et nous aussi, moi aussi, il m'arrive de contacter des gens qui me répondent pas. Et
mais
c'est
de
comme
ouf,
ça.
Moi
et
aussi.
Je leur en veux pas,
moi,
quoi.
Quand j'écris à Martin Scorsese et qu'il me répond pas, ça m'a fait chier aussi. Non, je rigole, mais moi aussi, des fois, j'écris à des gens qui me répondent pas et je me dis, bon, ben, soit un, ils ont pas le temps, soit ça les intéresse pas et du coup,
ça,
je me dis off,
tout.
Quoi. En fait, tu vois, ça, c'est controversé. Des fois, en fait, quand les gens t'écrivent et que tu leur réponds pas, ça veut juste dire que tu les intéresses pas, en fait. Et c'est pas grave.
Et c'est fine, ouais.
Ouais, il y a plein d'autres gens qui sont intéressants.
Exactement. Le monde est vaste.
Le monde est vaste.
Georges, merci 1000 fois.
C'est moi qui te remercie et la prochaine fois, c'est moi qui t'interviewe.
Ah, mais alors ça, avec
bon,
grand
il faut
plaisir.
Que je crée une émission.
Ouais,
enfin,
c'est ça, t'as un peu de taf. On se reparle dans 2-3 ans.
Vite. Ça peut aller vite. Allez, merci.
Beaucoup.
Ciao.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore 1000 merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.